fête de la circoncision. C'est en même temps la fête de la circoncision. Et l'imposition du nom de Jésus. L'ange avait dit à... L'ange avait dit, tu l'appelleras, tu donneras le nom de Jésus. Le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Et donc on s'occupe des enfants qui ne sont pas nés. C'est normal que l'ange nous donne le nom. Voilà. Et on vient puiser un peu, si je puis dire, dans la Sainte Famille, le nom qui nous est donné, quoi. Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour moi, je sais pas. Avant de commencer, je vous le dis. C'est que pour la messe perpétuelle pour les enfants non-nés, c'est un évêque qui la célèbre. C'est Monseigneur Raymond Segui qui célèbre aujourd'hui la messe perpétuelle pour les enfants non-nés.
Oh.
Et donc, nous lui laissons la place. On va s'occuper d'un petit aujourd'hui, ce matin, qui s'appelle Joseph. Un petit enfant non-né. Et donc on allume les bougies. On va dire le Gloria, ce qui est normal. Et le Credo. Et il s'appelle Joseph, c'est bien. Oui, on prendra les bougies. On peut en prendre au moins une.
J'ai allumé vers ton rêve une nouvelle bougie.
Ah, merci.
Pour savoir.
Ah, mais c'est l'inspiration pure.
Bah, je dois. C'est vrai, hein.
Ouais.
Il y a une petite bougie.
Voilà. Pour la fête de la circoncision, mais on l'allumera au moment de l'évangile, pour le credo.
Oh. Ah oui, pas maintenant.
C'est pas, vous avez sans doute remarqué en lisant cette nouvelle révélation de la divine volonté que la place très importante dans la souffrance rédemptrice de Dieu dans l'enfant, au moment de la circoncision, c'est quelque chose de très, il faut bien le dire, très très nouveau, hein, que l'Église ait mis comme ça sur le boisseau donc il faut regarder l'agonie de Jésus et le Gethsémani, relire le Gethsémani de Jésus. À l'intérieur de la circoncision, et puis aussi à l'intérieur de sa souffrance d'enfant avant de naître. Une contemplation, effectivement, qui est possible aujourd'hui, qui est nécessaire aussi. Ça va un peu ensemble, le massacre des innocents. La consécration comme prêtre, de l'ouverture des temps. Et martyr du Verbe de Dieu, par haine du Verbe de Dieu. Et le démon déteste Dieu, si on veut bien, mais il le loue quand même, il obéit, il le glorifie, et il l'honore, mais il ne l'aime pas. Faire attention à ça parce que Quelquefois, certains d'entre nous se contentent de louer. Et d'honorer Dieu, on le craint, mais et ne l'aime pas. La louange, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est comme une préparation à l'union. Et à la victimation d'amour, l'amour victimal, c'est pas un amour victimal de justice, c'est comme l'amour victimal des enfants. Entre temps, on a eu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous comprenez, bon. Je m'offre en victime. Un jour, j'ai vu quelqu'un arriver chez moi, je ne dirai pas son nom, c'est pas la peine. On a passé de longues journées ensemble, très nombreuses et longues journées. Il était rentré dans une communauté, et il s'offrait en victime. Dans cette communauté, du coup, lui, s'était offert en victime pour sauver l'Antichrist. On ne s'offre pas en victime pour sauver l'Antichrist. La foi n'est pas une affaire de personne, n'est pas une invention, un développement personnel. La foi, la charité, l'offrande victimale. Jésus est mort une fois pour toutes, c'est le Verbe de Dieu qui a été jeté en terre pour être confronté au démon. Il est beau le psaume 5 qu'on a lu tout à l'heure et le psaume 6 qu'on a eu un matin pour voir ce que Jésus, le Verbe de Dieu, dans la chair de l'enfant, éprouve. Il y a une passion quand même, une souffrance, une mort évidente, et une agonie avant que son corps ne commence à battre. C'est pour ça qu'il a besoin de Saint Jean-Baptiste. Il est obligé de se plonger, s'engloutir, baptisein, dans le cœur de Jean-Baptiste, avec Marie, Joseph, et puis il était pour ça. Enfin, tellement c'est insupportable parce que c'est un réconfort. Il faut voir. Et aujourd'hui, au fond, ce serait très beau d'ailleurs de demander aux séminaristes, aux théologiens, de faire un petit traité comme ça sur les souffrances métaphysiques. La mort, assumée par le Verbe de Dieu dans le tout petit, quoi. Et pendant ces 9 mois successifs, et jusqu'à la circoncision, y compris la circoncision. Je suis personnellement assez d'accord de penser que jusqu'à la circoncision, un enfant qui est né fait partie des enfants qui sont embryons. Si on faisait la théologie de l'agonie de Jésus, on verrait que l'enfant reste, si je puis dire, surnaturellement un embryon jusqu'à la circoncision. D'ailleurs, dans les cliniques, on considère un peu que c'est comme ça. Jours après la conception, c'est pas quelle différence avec quelques jours avant la naissance, franchement. Les mauvais, eux, ils ont trouvé cette vérité tout seuls. Quelle différence entre un enfant qui vient de naître et puis une heure avant, il n'est pas né.
La circoncision à se pratiquer jusqu'à quel âge à peu près?
Le huitième jour.
D'accord. Huitième jour.
Là, ça fait 8 jours après Noël.
Oui, ça va.
Et la circoncision. Et les psaumes, les premiers psaumes sont beaux parce que ils sont comme une révélation. Vous savez que les psaumes sont une révélation de la prière. La prière muette du Verbe de Dieu, enfin, dans le Rédempteur, dans le Christ en Jésus. Et Jésus, quand il. Sa nature humaine est très. Fragile, bien sûr, mais enfin, elle est complètement inondée, quoi. Elle est inondée de la lumière de gloire. C'est ça qui est très particulier pour Jésus, que nous n'avons pas, nous. Que lui a, parce que il est dans l'union hypostatique dès le premier instant de sa conception. Dans sa mémoire d'Adéi, est entièrement illuminé par le face-à-face avec le Père. Nous, on est dans l'innocence divine. Dans cette lumière du Verbe qui illumine toute personne venant, arrivant à l'existence d'un seul coup, à partir de rien, dans ce monde, mais lui, c'est pas seulement, et dans le resplendissement, l'odeur aussi, la présence, la tendresse, enfin. J'allais dire exclusive d'abord, de lumière aussi, du Père, on vit ça dans cette, on vit ces trois. Dans une inondation divine, au moment où Dieu nous crée, on en est tout frémissant dans notre oui, dans notre fiat divin d'origine. On a été fabriqué avec le fiat divin d'origine, inondé par ces trois effluves. Tu vois, et puis les deux effluves de la paternité. Mais Jésus, là, en plus, ce fait. Que son intelligence, son intellect agent. Mais complètement investi par le resplendissement du soleil, incréé, intime, en plénitude reçue immédiatement, du face à face avec la première personne de la très sainte Trinité. Et en même temps, il est confronté, jeté. Dans le temps, de la nature humaine, et jeté pour être confronté au diable. Alors c'est pour ça que le psaume 5 dit qu'il se retourne. Il se retourne. C'est beau de voir ce retournement vers portrait, la tendresse du Père. Et en même temps, elle appelle, dans le psaume 5 aussi, de ceux qui du Père, pour se retourner encore et aller vers la nativité, aller vers la rédemption, aller se plonger, quoi, dans cette confrontation. Il faudrait lire chaque verset du psaume comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et tout de suite, hein, il y a cette pression du Sacré-Cœur de l'humanité, du Sacré-Cœur divin de l'humanité. C'est pour ça que Marie, aussitôt le Saint-Esprit, l'a précipité à Anne Karim. Tout de suite, Jean-Baptiste. Et la condition nécessaire à la possibilité même de la rédemption. Dès les premiers instants de la conception du Verbe de Dieu. Au matin, tu éveilles ma voix. Dès le départ, aussitôt que Jésus est incarné, aussitôt il vit. Corps humain, sang humain, âme humaine, esprit humain. De la lumière de gloire. Il vit de la résurrection. Et il est porté immédiatement avec Saint-Esprit, si je puis dire, vers le cœur de Jean-Baptiste, parce que il faut que de la résurrection, il aille vers la nativité, c'est-à-dire la rédemption du monde. Et le 153e jour de l'existence de Jean le Baptiseur, c'est ce qui s'est réalisé. Combien de temps ça a duré, je ne sais pas. J'hésite entre 3 jours et demi ou 8 jours après sa conception, mais je pense que c'est plutôt 3 jours et demi. Nous avons, je sais pas, par arrogance, c'est pas ça, par jeu un petit peu, oui. De temps en temps, on joue avec les choses divines les plus intouchables. On peut jouer, Jésus. Jouer avec ça. On a fait le compte à rebours. Hein. C'est le compte à rebours. Le 31, le dernier jour du mois du Sacré-Cœur. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est la fin de l'année de la miséricorde, ça tombait le 153e jour. Mmh. Et donc là, on est 33 jours après. Ça veut dire qu'on est au 180, ceux qui savent ce que c'est que ce compte à rebours, au 186e jour. Hier c'était 185e jour. Ce 18 m'a toujours enchanté, parce que 18 c'est le contenant de 19. C'est le contenant de Saint-Joseph, c'est le contenant de la tendresse paternelle. Ça fait grandir Jésus. Quoi, c'est dit, il le ramène de sa résurrection à la rédemption. Il le fait revenir. Jésus le dit dans des termes très énigmatiques, qu'a dit personne. N'est descendu du ciel, sinon celui qui est monté au ciel. Vous vous rappelez de ça, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Ça se lit dans les deux sens d'ailleurs. Le chemin de croix descendant de Saint Joseph dans l'Apocalypse indique ça. Toujours le Père avec Saint Joseph ajuste Dieu à la souffrance rédemptrice du genre humain. Et de plus en plus. Nul ne monte au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Aussitôt, il commence avec la résurrection. Vous verrez, le psaume 5, c'est « Au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, c'est la résurrection. » Tout de suite. Et c'est beau, ce mouvement que Saint-Joseph, de son côté, Marie, de son côté, à elle aussi. L'unité des deux. Et puis, au fond, ceux qu'ils ont déjà engendrés dans la grâce messianique rédemptrice font peur au Verbe de Dieu dans la chair. Et tout ça est révélé avec un luxe de détails incroyable. Et en même temps, c'est impressionnant. Si on était dans les années 50, etc., communication, logo, partage d'évangile, sur les parents, mettrait là, disloquant. Tout se joue dans l'embryon. C'est une grande pancarte. Des trucs comme ça, tout se joue dans l'embryon. Là, c'est un peu ça, c'est ça. comme il ne peut plus se retourner au fond dans le sacré du Père, celui qui regarde en arrière est perdu pour le royaume des cieux. Ça marque la tentation continuelle dans laquelle la nature humaine de Jésus est englouti. Que de dire que Jésus n'a jamais été soumis à la tentation, c'est ridicule. Parce qu'on ne sait pas. Pour être cette tentation, on se retourne du petit, quoi. Alors du coup, il se retourne dans le sacrement de la paternité. Et il ne voit désormais plus son père que dans l'unité responsable de Marie-Joseph, c'est vrai ça. Alors il s'engloutit en eux. Il trouve consolation parce que dans cette unité responsable, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui échappe à la mort universelle et métaphysique, transcendantale, si je puis dire. Parce que dans l'unité responsable, transactué, accompli, en plénitude reçue, comme c'est le cas pour eux, il n'y a que de la lumière, il n'y a pas la moindre séquelle du péché originel. Pas la moindre. Alors, et c'est pour ça qu'il va naître dans la lumière. Et il passe de la résurrection, donc, à la lumière. Et entre-temps, et entre les deux, le flux et le reflux. C'est une souffrance impossible à décrire, parce que c'est une souffrance rédemptrice, elle est adaptée, bien sûr. Et puis arrive le moment de la circoncision. Et l'imposition du nom de Jésus qui lui est donné par l'ange avant sa conception. Mais c'est curieux hein, parce que c'est un précepte bizarre hein, la circoncision. Hein, on n'étudie pas beaucoup ça. Les cours de théologie, il y a un petit cours sur la circoncision. C'est bizarre quoi. Hein, je prends le bout d'un petit prépuce, du petit pénis caudal d'un bébé quoi. Et je prends, je coupe. Je décapite. Si on voit bien dans la Bible, c'est immensément important la circoncision. Le rappel de Dieu, du Messie à Moïse, faut exiger la circoncision à Abraham. C'est pour un esprit chrétien, pour un esprit éduqué par la foi classique. C'est énigmatique. Pourquoi est-ce que cette importance continuelle qui revient sans arrêt de la circoncision. Et c'est surtout qu'il y a un côté quand même. Pourquoi cette décapitation d'un morceau de peau à l'endroit de la signification, à un endroit d'un enfant, d'un organe sexuel finalement. Masculin. Alors bien sûr, on peut toujours prendre l'épître aux Hébreux et puis dire c'est le signe de la circoncision du cœur, ce qui est très vrai. Parce que la viridité de la signification sponsale de l'homme c'est sa fécondité originelle et principielle. D'amour. Et au fond, c'est un... Il faudra que Jésus traverse tout toute la fécondité masculine, si je puis dire, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Pour les faire se retourner. C'est un peu dire, à un moment, le roi David, enfin, ramène je ne sais pas combien de centaines de milliers de prépuces des Philistins. Il les met au pied du roi Saul, à Jérusalem. Alors du coup, il lui donne sa fille en responsabilité. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Et là, Jésus doit prendre, ça veut dire, tous les prépuces, oui, de la nature humaine entière, et donc il doit racheter cela pour rentrer dans sa mission sponsale, rédemptrice. De la nature humaine tout entière, il doit faire le parcours de chaque être humain dans la version de la signification sponsale de son corps, dès le principe de sa vie embryonnaire. Ça fait beaucoup à rajouter ça. Et du coup, il ramène l'amour dans sa source, c'est-à-dire dans le baptême. Et c'est comme ça que le baptême de Jean-Baptiste dans l'eau remplace la circoncision. C'est vrai que la séduction des filles de Caïn avait ramené amené par la puissance de Lucifer dans la nature humaine des choses très bas, si je puis dire. Mais le sang coule. Et le nom de l'enfant est proclamé au milieu des cris. Et le sang de Jésus a coulé. Deux premières gouttes de sang, comme on dit. Quand on parle des deux premières gouttes de sang, hein, il y a écrit, quoi. C'est écrit, ça fait très mal. Physiquement, pour un bébé, mais pour Jésus, c'est terrible, quoi. Parce que c'est beaucoup plus fort que ça, bien sûr. Il est dans la vision béatifique. C'est un point de ténèbres, quoi. Dans le renversement de la situation de la nature humaine. Et toutes les portes sont ouvertes, le baptême, hein, le deuxième baptême s'origine là, dans la circoncision. Et nous célébrons la messe pour le désir de baptême, en récupérant le désir de baptême exprimé par des milliards de chrétiens, en mettant de l'eau bénite à droite et à gauche. Pour exprimer ce désir de baptême. La messe, c'est l'application. Et le fait de plonger ses enfants en désir de baptême dans le sang du Christ, dans le sang du Verbe immolé. Bon, ben le démon, avant cela, il avait la haine de Dieu, c'est vrai. Mais il n'avait pas la haine du Père, ou la haine du Saint-Esprit, ou la haine du Verbe de Dieu. Mais à partir de là, oui, il a pris le Verbe de Dieu en haine, la personne même du Verbe. C'est peut-être le seul accès qu'il a eu à la très sainte Trinité. Le Verbe. Et comme il ne peut pas atteindre... C'est trop tard, il l'a su seulement 36 ans après que c'était le Verbe, donc, si je puis dire, hein, dans son intervention dans l'évolution des choses, de la malédiction de la terre. Alors du coup, il y a cette haine du Verbe. Il faut bien qu'elle s'exprime. Qu'elle trouve un récepteur dans les membres vivants de Jésus vivant. Et ce sont nos enfants. Et Saint Jean le dit dans l'Apocalypse. c'est la haine du verbe qui est l'origine, qui est la raison, qui est le motif formel, comme on dit, du martyr. Ils ont proclamé martyr, pas du tout à cause du Christ. Ils sont marrés, mais à cause du Verbe de Dieu. C'est Saint Jean, l'évangéliste, qui dit ça. Et si on regarde bien Saint Jean, il le tenait déjà de Saint Jean-Baptiste, ça. C'est un disciple de Saint Jean-Baptiste. Il faut un minimum de finesse, quand même, pour comprendre la souffrance des hommes. Et un minimum de vie contemplative, là, oui. L'Église aujourd'hui, catholique, n'a toujours pas proclamé ses enfants étaient les enfants de l'Église, les enfants du Verbe de Dieu. Elle ne la fait pas. Alors pour l'instant, on fait ça à un à un. On compte 222 milliards. Beaucoup de messes. Tiens, quelqu'un a dit, mais c'est ridicule. Comment voulez-vous que les gens trouvent suffisamment d'argent pour célébrer les messes comme vous vous le dites? C'est impossible. Objection très humaine, ça. C'est bizarre que ce soit l'argent, que ce soit le motif, tu vois. Bien sûr que oui. Les rois mages vont apporter tout leur trésor, hein, pour le baptême de l'innocence. Hein. Mais on le fait un à un, et à chaque fois on supplie, il y a une supplication pour que l'Église proclame que tous ses enfants appartiennent de droit à l'Église. Alors tous les enfants des bouddhistes, tous les enfants des chinois, tous les enfants taoïstes, tous les enfants confucianistes, tous les enfants tibétains, tous les enfants islamiques, tous les enfants, tous, sont immédiatement, en raison du pouvoir des clés, proclamés enfants d'Église. Alors on met une robe blanche. Ils deviennent ipso facto d'un seul coup tous catholiques. Le jour où le Saint-Père eut son pouvoir d'éclat pour ouvrir ça, dans une expression dogmatique et liturgique adaptée, ce jour-là, c'est la fin de l'Antéchrist. Il ne peut plus rester une heure de plus sur la terre. Et on prie tous les jours, on prie beaucoup, pour que l'Église, du Saint-Père, quoi, du ciel et de la terre, proclame que ses enfants sont les siens. Et on le fait par anticipation. Et là, on fait le travail de Jean-Baptiste. C'est ce qui rend la vie embryonnaire rédemptrice de Jésus supportable. Sinon, on est obligé de revenir en arrière, s'engloutir de la tendresse originelle, de la paternité créatrice de Dieu. Et il y a ce retournement continuel de la Sainte Famille, dans le règne du Sacré-Cœur. Et celui qui regarde en arrière est impropre pour le royaume des cieux. Il ne peut pas être donné en nourriture. Il ne peut pas naître dans la maison du pain. Bethléem, c'est la Sainte Famille, Bethléem c'est l'Eucharistie. Et du coup, il n'y a pas de lumière. Et du coup, la naissance est un accouchement. Et bien, c'était pas un accouchement. Bien sûr que c'était pas un accouchement. Lumière née de la lumière. Alors à chaque fois qu'on baptise un enfant, je veux dire qu'on le baptise du baptême de l'Apocalypse. On fait quelque chose de particulièrement grand. Cet enfant est... parce que ça, le pouvoir de les clés de l'Église nous permet de le faire. Et donc, on enfonce à chaque fois pour celui-là. Mais du coup, pour la nature humaine tout entière, au jour de l'avertissement, ça ouvre le rayonnement de surabondance de cette grâce-là. Ça va se répandre sur la nature humaine tout entière. On introduit à l'intérieur de l'ouverture des temps le germe de la disparition définitive de l'Antéchrist. Alors bien sûr, il faut que l'être humain et l'être humaine arrive à sa plénitude de l'âge. C'est pour ça que personnellement j'ai tendance à dire ça durera environ 19 ans à cause des lois, parce que de la plénitude du corps, de la chair et du sang. Mais donc quand on baptise ce petit Joseph là d'aujourd'hui, on fait quelque chose qui réfère à la rédemption, je veux dire, du Verbe de Dieu. On peut dire à la personne du Verbe de Dieu illumine toute la vie rédemptrice de l'embryon, Jésus embryon, quoi, ouais. Jusqu'à la circoncision. Dans la lumière, née de la lumière, c'est un peu ce que le mystère de Noël nous a appris. Hein. Ce passage de la résurrection, qui est sa conception, sa mémoire, et puis à la nativité, qui est un mystère de lumière, et de transfiguration. Pour pouvoir avoir la force de rentrer dans la circoncision. C'est comme ça que ça s'est passé, les trois étapes. Et à chaque fois, le Verbe de Dieu s'est trouvé complètement encerclé, quoi, dans cette agonie rédemptrice, confronté avec le diable et le démon. Mais quand on a tendance à oublier quand même ce que c'est qu'un enfant, et une capacité à la souffrance bien supérieure à celle de l'adulte. Une conscience plus profonde, une fragilité presque sans limite, et le fond de l'angoisse qui y correspond soulève pratiquement tous les organismes, j'allais dire cérébraux et puis affectifs. Et il est obligé de s'engloutir, obligé de s'engloutir dans la lumière pour venir un petit peu se réconforter de la nativité, c'est-à-dire la spontanéité de Marie-Joseph, pour venir s'abreuver, ça veut dire des volontés éternelles et vivantes de Dieu le Père. En eux, dans la lumière, de faire contrepoids, ce poids de souffrance et de mort qui devrait l'anéantir immédiatement. d'après les lois de la nature. Et ici, on me dit complètement parce que le verbe de Dieu doit donc passer par des volontés éternellement vivantes de la paternité de Dieu dans la responsabilité de la sagesse créatrice de Dieu et la restauration d'une véridité pour tout l'univers qui va s'en suivre parce qu'il va y avoir une grande semaine de la création et une naissance nouvelle, c'est la circoncision. On retient son souffle là. Si on regarde de l'intérieur, l'agonie de Jésus, parce qu'elle est métaphysique, surnaturelle, et transcendantale à la fois. Tota, vita, Christi crux, fuit et que martyrio, toute la vie du Christ a été croix et martyr. Notre vie contemplative, la foi, je veux dire, nous oblige à rentrer à l'intérieur de Jésus pour être à l'intérieur de Jésus, au moins à participer, ne serait-ce qu'un peu, je veux dire, à cette confrontation du Verbe de Dieu, à l'emprisonnement, j'allais dire, de toute sa nature personnelle dans une nature broyée. Un poids de souffrance, de douleur, de croix et de mort qu'on peut décrire, mais qui donne le vertige, qui donne le vertige au monde angélique glorieux, à tel point que c'est tellement étonnant qu'ils sont obligés, si je puis dire, de quitter la lumière de gloire de la vision béatifique pour venir, eux aussi, dans notre monde, à la suite des anges déchus, pour s'engloutir et regarder la passion du Seigneur, la passion commençante, et jeter des cris d'exaltation et de gloire dans toutes les pauvretés humaines. On dit ça que dans le tour de la rédemption qu'on a fait cette nuit, les anges, au spectacle de la passion intérieure du Verbe de Dieu dans la chair, ont une réaction d'amour, eux qui sont immergés dans la séparation invincible de la lumière de gloire de leur vision béatifique, pour venir, et ils sont là. C'est dans la rédemption du Seigneur que le miracle des trois éléments peut s'opérer. Et la moindre petite prière d'un embryon, à ce moment-là, dans une neuve hiérarchie glorieuse, lorsqu'elle est conjointe à ce baptême que nous faisons pour Joseph, prend des dimensions dans l'âme, une vastitude qui est la même et qui est identifiée dans son ombre, son poids et sa mesure à la vastitude de l'esprit angélique, c'est-à-dire sans limite et sans fin. Voilà le miracle des trois éléments, la petite prière. Le pauvre trouve sa vastitude dans notre âme, la vastitude de l'esprit angélique, et s'engloutit dans l'indivisibilité de Dieu sous un coup d'amour qui remplit de lumière et pénètre à l'intérieur de Dieu pour emporter le Verbe de Dieu dans sa passion. C'est ça l'acte continuel de Marie pour engendrer la rédemption. Et de Joseph, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il n'y a que l'Église qui peut réclamer ses enfants comme étant les siens. Aucune autre association de droit. Que le démon engendre de nombreuses résistances. grâce au fiat divin. Si toute notre vie dans ce fiat, cette acceptation d'être une victime d'amour, d'être qu'une victime offrante d'amour, une indivisible offrande d'amour, chaque palpitation de notre vie, notre pensée, nos préoccupations, mais seulement rien, plus rien d'autre que je suis offert dans une offrande victime, victimale d'amour, d'amour éternel, d'amour d'amour. Je suis cette offrande victimale et innocente d'amour. Louange, gloire à Dieu, je suis cette offrande victimale d'amour. Débordant, puis ça déborde même toutes mes capacités, ça déborde même le mariage spirituel, ça déborde la septième demeure, il faut bien qu'il y ait une dixième hiérarchie pour engager le combat eschatologique final. Comme l'explique saint Hildegarde, il faut bien, doit être une offrande victimale d'amour, mais c'est bon. C'est comme c'est nécessaire, mais c'est pas pour sauver l'Antichrist. Amant brave, victime d'amour pour sauver l'Antichrist. Et il disait tout le temps, je ressens rien, je ressens rien. Je ressens comme les démons, je ressens rien de Dieu, je ressens rien. Et je dis ça, c'est parce que tu t'es trompé. Chrétien, quand on est dans l'offrande victimale d'amour, on est extrêmement sensible. C'est pas parce que Jésus, dans la vision béatifie, que du coup il a perdu toute sensibilité. C'est exactement le contraire. On est extrêmement sensible. Mais non, Saint Jean de la Croix, la nuit, extrêmement sensible. C'est pour ça que ça fait peur. Alors Jésus nous a dit, le Saint-Père aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les gens ont peur de souffrir. Non, n'ayez pas peur. C'est une souffrance victimale d'amour et d'offrande. C'est une jubilation. Et elle savoure à l'intérieur d'elle-même le nard, la liqueur délicieuse de la lumière spontanée, de la mise en place du corps spirituel. Bon, nous allons sans entrave dans le fond des jubilations ardentrices de notre Seigneur, cette joie sourde qui est en lui. Parce qu'à travers elle, le monde entier est sauvé, débarrassé de toute souffrance. Et on savoure déjà les liqueurs les plus enivrantes dans la lumière. Et donc nous allons de la transverbération à la transpiration sponsale d'éternité. Et ça, c'est très délicieux. C'est très lumineux. Faut pas avoir peur de la mort. Et on ne le fait pas du tout pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Saint Jean, il l'a dit, ne priez pas pour quelqu'un qui est dans la mort. Donc ne priez pas pour l'Antichrist, c'est pas vrai. Il a fait son choix, donc priez pour le. Vous vous offrez en offrande victime à d'amour pour le Père. Dans le Père. Dans la sponsale, dans cette transpercée. De part en part, cette trans, c'est d'un bout à l'autre. Le Père, trans. C'est un transfert de part en part, en grec surtout, c'est. De part en part et puis substantiellement. Et une manière débordante par le clair. On le dit à Saint-Michel, dans ton clair. Défends-nous. C'est ce clair-là. bien, du coup, on peut entendre cette parole quand même. Mais c'est vrai que ça fait peur. Hein. En s'offrant victime, on va prendre à la place de l'Antichrist tous les sentiments qu'il devrait qu'il faut lui retirer de lui, parce que comme ça il va pouvoir respirer et finalement se convertir grâce à moi, parce que je me suis offert en victime. Là, ça va pas. N'importe quel père spirituel, je suppose, que vous êtes, comprendrait que ça ne va pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du Père. La volonté du Père, c'est la vie éternelle. Jésus le dit, la volonté du Père, il n'y en a qu'une, c'est la vie éternelle. En étant l'Esprit Saint et dans le Verbe, en vérité, en une seule, indivisible, vie éternelle en lui. Les deux mains dans le Saint des Saints. Et oui, la proximité, vous êtes d'accord avec moi, je suppose, quand je dis que la proximité progressivement, quoi, petit à petit, proximité que nous avons avec les enfants, proximité intérieure, hein. On partage leur vie, hein, dans la vie, en fond. Du Verbe de Dieu en eux. Dévasté. C'est vie du Verbe de Dieu qui est dévasté. La haine de Satan. C'est là, c'est extraordinaire de voir que la haine se dirige sur le Verbe de Dieu. Ça, c'est impressionnant. C'est pas sur le Christ, hein, qui déverse sa haine. On le voit bien dans l'Évangile. Le respect, pour pas le respect, tu te donnes tous les royaumes. Mais le Verbe de Dieu, c'est autre chose. Sa haine, en fond, s'est déversée comme ça, s'est retournée. Un peu comme on voit dans les dessins animés, d'un seul coup, le dragon, là, qui, féroce de tous les côtés, s'arrête, il se retourne, il voit, et c'est là. Et il y va, quoi. Ça donne. Je suis consumé soi-même. Les vautours se précipitent sur le corps. Et là où se trouve le corps, là les vautours se rassemblent et se précipitent. Voilà ce qui se passe dans la souffrance rédemptrice de Jésus enfant. Les tourments qu'il en a reçus sont considérables, évidemment. Parce que ces tourments-là, avec Marie et Joseph, il est le seul à pouvoir les porter. Personne d'autre. Et il n'y a que sous un seul nom que nous puissions être sauvés. Et c'est le jour de la circoncision qu'on lui donne le nom de Jésus.
Alors, est-ce que quelque part, on pourrait, quand on parle de l'Emmanuel, on parle du Verbe de Dieu, et lorsqu'on parle de Jésus, Dieu sauve. On est dans le...
C'est une union hypostatique.
Emmanuel.
Et donc aussitôt, c'est une union hypostatique, Dieu avec nous et Jésus. C'est une union hypostatique. Jésus, c'est déjà Yeshua. C'est le nom d'Elohim, Yod, le Père. Le Verbe de Dieu, si. Vav. Un Esprit Saint. À l'intérieur de la chair. Entièrement englouti substantiellement dans l'éternité de la vie éternelle. C'est Jésus. C'est Dieu avec nous. Ça veut dire exactement la même chose. C'est le nom de Jésus et le nom d'Emmanuel. Ont la même signification. À cause de l'union hypostatique substantielle. Mais c'est sûr, c'est Dieu. Quand je touche le corps du Christ, c'est Dieu. Quand j'ai une goutte du sang du Christ, c'est Dieu. Jésus. Bon, allez, on va s'occuper de toi, frère Joseph.
Non, amen. Il attend ça.
Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toutes frontières, qu'elle vienne habiter tous les cœurs, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie, ô pays de la soif, l'eau a jailli, elle se répand. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toutes frontières, qu'elle vienne habiter tous les cœurs. C'est lui qui vient te sauver, alors s'illumine ton cœur. À la voix du Seigneur, il vient pour te racheter. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toute frontière, qu'elle vienne habiter tous les cœurs. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toute frontière, qu'elle vienne habiter tous les cœurs. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche dès lors. Mon âme a soif de toi. Après toi, viens qui ma chair, terre altérée, altérée sans eau. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépasse toute frontière, elle vient habiter tous les cœurs. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Alléluia. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toutes frontières, qu'elle vienne habiter tous les cœurs qui te portent sur leurs mains. Pour que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu graseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De l'enjeu, je donnerai ses yeux. Et je ferai que tu vois mon salut. Alléluia. Qu'aujourd'hui se lève la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Qu'elle dépasse toute frontière. Qu'elle vienne habiter tous les cœurs. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Qu'elle dépasse toutes les frontières, qu'elle vienne habiter tous les cœurs. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, convocation du monde en réunion. Des paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Dieu de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Qu'elle dépasse toute frontière, qu'elle vienne habiter dans ton cœur. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul es très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Qu'aujourd'hui se lève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Qu'elle dépasse toute frontière, qu'elle vienne habiter tous les cœurs. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de ressentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.